Chapitre 7, le marquis. 1er juin. J'ai vu le marquis, c'est un beau vivant. Mais auparavant, j'avais vu ses portraits. C'est une anecdote assez bizarre qu'il faut que je rapporte ici, car elle a été pour moi l'occasion de la première lueur projetée sur la singulière intellectualité de la marquise. Christine n'était pas là et j'étais assez embarrassé de ma personne. C'était la seconde fois que je venais sans rencontrer âme qui vive, car je ne compte point pour des âmes le petit chat Sing Sing et la cariatide Sangor. Je n'osais encore toucher à rien, et pour calmer mon impatience, j'essayais de fixer mon attention sur 4 portraits représentant le père, le grand-père, l'arrière-grand-père et le trisaïeul de mon hôte, enfin toute la série des Coulterets de jusqu'à Louis XV. Les autres se trouvaient, paraît-il, dans la galerie du premier étage, mais ceci me suffisait pour le moment. Ces 4 images me présentaient l'histoire du costume masculin en France pendant une période de 150 ans, avec cette particularité bizarre que ces différents accoutrements semblaient habiller le même personnage, tant les Coulterets se ressemblaient de père en fils. Il n'était point jusqu'aux manières, jusqu'aux tons, si j'ose dire, qui ne se répétassent. Bref, sous les dentelles et les basques de l'habit Louis XV, sous la cravate à la garale, l'habit et les guêtres à l'anglaise de l'an IX, sous la redingote à large collet du temps de Charles X, sous l'habit à la française du Second Empire, on retrouvait le même Coulteret haut en couleur, au nez fort, à la bouche charnue, mais dont le dessin ne manquait point de finesse, aux yeux d'un feu bizarre et troublant, à la mâchoire dure, au front un peu étroit, mais volontaire, souligné de sourcils réunis à leurs racines, et sur tout cela un grand air d'audace, un peu insolente, qui semblait dire « le monde m'appartient ». La vision que j'avais eue du marquis actuel, au fond d'une voiture rapide, avait été trop fugitive pour que je puisse dire qu'il continuait d'aussi près que les autres la ressemblance avec le trisaïeul. Je prononçais tout haut. Ici manque le portrait de Georges-Marie Vincent. Oh, j'avais à peine fini d'exprimer ma pensée que derrière moi une voix se fit entendre. Il y est ! Je me retournai. La marquise était là, toujours grelottante dans ses fourrures. Je m'inclinai. « Vous ne le voyez pas ? » demanda-t-elle. « Où donc ? » fis-je un peu étonné de l'air dont elle me disait cela, car elle paraissait parler comme dans un rêve, et ses yeux étaient immenses. « Où, mais là ? » Et du doigt, elle me désignait les 4 portraits. Mais lequel, interrogeai-je encore, et de plus en plus stupéfait. Mais n'importe lequel, me répliqua-t-elle dans un souffle. Et comme vaincue par un grand effort, elle se laissa glisser dans un fauteuil. C'est là-dessus que la porte s'ouvrit et que le marquis fit son entrée. Je ne sais s'il vit sa femme, je crois qu'il ne l'aperçut pas. Elle était placée de telle sorte qu'il pouvait très bien ne pas la voir. En tout cas, elle ne fit aucun mouvement. Elle resta tapie dans son coin, comme une petite bête blanche, peureuse, retenant son souffle. Dès que je vis de près le marquis, je compris ce qu'elle avait voulu dire avec son « n'importe lequel ». C'était vrai qu'il ressemblait à n'importe lequel des deux qui étaient alignés sur le mur. « Ah, monsieur Bénédicte Masson, sans doute. Oui, eh bien, je ne suis un peu plus heureux de vous rencontrer. Mademoiselle Norbert m'a souvent parlé de vous et je suis tout à fait votre obligé, puisque vous voulez bien me consacrer un peu de votre temps. Vous verrez que vous aurez de quoi l'occuper ici. » Ah oui, vous étiez en contemplation devant les Courteret. Ah, c'est un spectacle qui en vaut bien un autre. Croyez-vous qu'ils n'ont pas l'air de s'ennuyer, les gaillards? Ah, de fait, ils ont toujours une mauvaise réputation. Je ne leur en veux pas pour cela, une telle lignée, n'est-ce pas, monsieur? Et toujours fidèle à son roi. Vous connaissez notre devise, plus que de raison. Belle devise, oh, toujours plus que de raison, dans le bien comme dans le mal, à la guerre comme dans les plaisirs. Je parle du temps où il y avait des plaisirs. Ces gaillards-là ont connu ce temps-là, je les envie. Aujourd'hui, nous n'avons plus que quelques distractions, et encore, on ne peut même plus chasser. Vous imaginez-vous, Georges-Marie Vincent, se faisant la main comme son trisaïeul en abattant un couvreur sur un toit? Non, n'est-ce pas? Ni moi non plus. Tout de même, dans ce temps-là, il ne s'est pas trouvé un garde champêtre pour lui dresser procès-verbal. Ah, c'était un type que Louis-Jean-Marie Chrysostome, premier écuyer de Sa Majesté. Nous avons fait du beau, ah, nous avons fait du beau. Monsieur, nous sommes maudits dans tous les manuels de l'histoire de France, rédigés par des francs-maçons d'aujourd'hui. Parce que les francs-maçons d'autrefois, nous avons tous été plus ou moins francs-maçons. Je me rappelle, la chose est arrivée à mon grand-père, qui était le premier gentilhomme de la chambre de Louis XVIII. Oh, je me rappelle que ce soir-là, on a bien ri. C'était un soir d'initiation. Mon grand-père, arrière-grand-père, a passé pour de bon son épée à travers le corps de l'initié qui était tenu en ville des propos fort désagréables pour l'honneur d'une dame qui avait celui d'être à la fois la maîtresse de Sa Majesté et de mon bisaïeul. Ça, c'était une épreuve. Le pauvre garçon en est mort comme de juste. Il y a eu contre Marie-Joseph Gaspard une levée de truelles, il n'en s'est pas mal plus porté, comme vous voyez. Et en prononçant ces derniers mots, il se tournait vers moi, de telle sorte que, ma parole, on ne savait au juste de qui il parlait quand il disait ce « comme vous voyez » du portrait de Marie-Joseph Gaspard ou de lui-même. Et il riait, il riait de tout son cœur et de toute sa bouche aux dents éclatantes, aux canines aiguës. Oh, c'était un homme de belle humeur et qui devait boire sec et manger saignant. Vous avez remarqué, comme nous nous ressemblons tous, on continue la lignée. M'est avis que ce jour-là, le marquis avait dû boire pour faire honneur à sa devise, plus que de raison, plus aequo, comme nous disons en latin. En tout cas, celui-là était sans mystère et ne nous donnait point comme la marquise des idées de fantômes pour parler comme les bonnes femmes. Et il nous planta là, cependant que Sing Sing courait devant lui, ouvrant les portes, et que nous entendions son rire énorme qui semblait la seule chose dans ce vieil hôtel endormi. Puis tout retomba en silence, tout s'effaça à nouveau, et la petite nuée blanche derrière moi prononça « Ne trouvez-vous pas qu'il est effrayant? »« Pas le moins du monde, répondis-je en souriant. Je trouve que monsieur le marquis est en bonne santé. Oh, il le peut, dit-elle dans un souffle. C'est justement ce que je vous disais. Il est effrayant de bonne santé. Ce qu'elle me disait, je le comprenais de moins en moins. Et l'air de mystère avec lequel elle nous disait cela me parut tout à fait puéril. Que pouvait-elle vouloir me faire entendre avec ce « il le peut, il le peut »? Elle reprit en remontant d'un geste frileux sa fourrure sur son épaule nue. « Avez-vous remarqué que le marquis, quand il parle des Coulterets, de celui-ci, de celui-ça ou d'un autre, dit souvent « je »?»« Mon Dieu, madame, sans doute, dis-je, comme il dirait nous, nous les Coulterets. »« Non, 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 ce n'est pas cela. » Il dit « je me rappelle ». Et ainsi, il raconte l'anecdote comme si la chose lui était arrivée à lui-même. Et où voulait-elle en venir? Elle avait toujours ses yeux immenses reflétant une pensée qu'elle était seule à voir. Madame, quand monsieur le marquis m'a dit « je me rappelle », il faut évidemment comprendre « je me rappelle que l'on m'a raconté ». Il ne saurait en être autrement. Monsieur le marquis ne saurait se rappeler une chose qui s'est passée lorsqu'il n'était même pas né. Mais c'est la raison même, prononça-t-elle avec un soupir. C'est la raison même. Elle se leva. Il est parti tout de suite, expliqua-t-elle, parce que Christine n'était pas là. Oh, je vous en prie, monsieur Marnson, quand Christine est là, ne la quittez sous aucun prétexte. Allez, au revoir, monsieur Masson. Ah, Sing Sing était derrière nous, il nous écoutait. Je me retournai, en effet, le petit singe indien montrait ses yeux de jade derrière la porte entrouverte. Et je le chassai en claquant des mains, comme Christine me l'avait recommandé. Avant de me quitter, la marquise me tendit la main d'un geste extrêmement las. « J'ai la plus grande confiance en vous, monsieur Masson. Je vous dis des choses dont vous ne comprendrez l'importance que plus tard. Christine ne veut pas comprendre, elle. Oh, je suis bien heureuse de vous savoir ici. » Elle glissa, disparut, pauvre petite chose grelottante par cette belle journée de juin tiède. Par une fenêtre entr'ouverte, le jardin embaumé entrait dans la bibliothèque comme la vie entre dans un tombeau privé de sa momie. Et ce fut encore de la vie qui entra avec Christine, rayonnante de jeunesse, les joues pourpres, la bouche en fleurs. Elle me donna ses deux mains. « Vous ne vous êtes pas trop ennuyé sans moi ?» Je ne lui répondis pas. Que sais-je pu lui dire ? Qu'il n'y avait de vie pour moi que près d'elle. Mon cœur tumultueux m'étouffait. Vit-elle mon trouble ? Oh oui, sans doute. Elle ne fit rien paraître, en tout cas. Elle défit son chapeau d'un geste adorable, de ce geste qui lui était particulier et qui mettait autour de sa tête la couronne lumineuse de son bras rose. « Allons travailler, me dit-elle. Eh bien, vous avez vu la marquise ?»« Oui, oui, et le marquis aussi. Le marquis ne m'a pas l'air bien compliqué, mais la marquise... »« Oh, cela a déjà commencé. Racontez-moi ce qu'elle vous a dit. » Je lui fis une narration complète de l'entrevue. « Pauvre femme, soupira-t-elle, elle ne vous a pas paru un peu folle ?»« Oh, en tout cas, elle est bizarre. Comment se fait-il qu'elle ait toujours froid ?»« Je vous dis que c'est une femme pleine d'imagination. » Elle s'imagine qu'elle a froid, et elle a froid. Savez-vous son idée, l'idée qui la transit, l'idée qui la fait se promener comme une ombre dans cet hôtel de la Belle au Bois Dormant ? C'est à ne pas croire. Et je ne l'aurais pas cru si le marquis lui-même ne m'avait pas ouvert les yeux sur l'étrange monomanie de sa femme, dont il a été le premier à souffrir, car il a beaucoup aimé les femmes. Eh bien, mon cher monsieur Masson, la marquise s'imagine que tous les marquis que vous voyez sur la muraille, et celui d'aujourd'hui, Georges-Marie Vincent, c'est le même. Ah, je comprends. Je comprends maintenant, n'est-ce pas? Vous comprenez son n'importe lequel, qu'elle m'a déjà servi à moi et que j'ai répété au marquis qui m'a tout expliqué avec une grande tristesse. Ah, en effet, elle est folle, oui. Pour elle, le marquis Louis XV, que vous voyez là sur le mur, le fameux Louis-Jean-Marie Chrysostome, n'est pas mort, pas plus que les autres. Et le Georges-Marie Vincent d'aujourd'hui, c'est encore et toujours Louis-Jean-Marie Chrysostome. Je dis « et toujours » parce qu'elle est persuadée que maintenant il ne peut plus mourir, à moins. À moins. À moins. Oh, fit Christine, cette fois vous m'en demandez trop long. Ce serait entrer dans un ordre d'idées que je n'ai pas encore le droit d'aborder avec vous. Le marquis, que vous voyez si gai, si bon vivant, ne tient pas à ce que l'on connaisse toutes ses misères. Du reste, quand je le vois trop exubérant, je me doute bien qu'il cherche à les oublier. Je vous dis qu'il a beaucoup aimé sa femme, et je suis certaine qu'il l'aime encore, et même qu'il n'aime qu'elle. Il essaie parfois de rire avec moi de ce qui lui arrive, mais je ne me trompe pas au faux éclat de sa raillerie. Regardez-moi, me fait-il, et dites-moi si j'ai l'air d'un Cagliostro, la comte de Saint-Germain. La farce est drôle. Eh bien, cette idée est venue tout d'un coup à ma femme, et elle ne peut plus s'en détacher. Jusqu'alors, elle me regardait avec amour, maintenant, elle ne peut plus rien voir sans épouvante. Oh, c'est tellement drôle, Christine, qu'il faut que je vous embrasse. Voilà le genre, cher monsieur Bénédicte Masson. Seulement, moi, je ne veux pas que le marquis m'embrasse, parce que, moi, je suis fiancé. Ah, c'est vrai, oui, vous êtes fiancé. Il y a même longtemps que vous êtes fiancé, je crois. Oui, assez longtemps. Et pour longtemps encore? Osais-je demander. Elle ne me répondit pas. Elle revint à notre conversation. La marquise est une petite Anglaise sentimentale, élevée aux Indes, où les théories spirites les plus extravagantes ravagent les salons de la haute société. Elle a certainement assisté à des séances d'un fakirisme qui bouleverse les cervelles incertaines. Et la marquise est une cervelle incertaine. De plus, elle lit beaucoup, elle se bourre de romans de l'au-delà. D'un autre côté, le marquis, exubérant de vie, n'a peut-être pas su comprendre qu'il fallait traiter avec la plus extrême délicatesse cette fragilité suspendue entre deux mondes. Bref, la rupture est complète aujourd'hui ou est bien près de le devenir. Il y a des histoires du parc aux cerfs sur le fameux Louis-Jean-Marie Chrysostome qui, comme tous les seigneurs de son temps, pratiquait plus ou moins l'occultisme. La pauvre petite les a lus. Elle a vu ici les quatre portraits qui sont en effet si étrangement ressemblants. Et voilà, maintenant vous connaissez la marquise. Tâchez de la guérir de son idée fixe, si vous le pouvez, monsieur Bénédicte Masson. J'ai encore une question à vous poser, mademoiselle Christine. Est-ce que la marquise est jalouse? Oh non, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit en s'en allant, surtout lorsque Christine sera ici, ne la quitter sous aucun prétexte. Oui, je sais pourquoi elle vous a dit cela. Oh, la jalousie n'a rien à faire là-dedans, et cela n'a aucune importance. Mais autant que possible, je préfère en effet que vous soyez là quand j'y suis. Tout de même, Christine ne m'a pas dit pourquoi la marquise m'avait dit cela. Chapitre 8, où l'on reparle de Gabriel. 4 juin. Si je m'attendais à celle-là. D'abord, il est bon que l'on sache que mon aventure a causé dans le quartier une petite révolution. Ce n'est pas sans émoi que l'île Saint-Louis a appris que Mademoiselle Norbert me rendait de fréquentes visites, et quand on a su que j'accompagnais la fille de l'horloger chez le marquis de Coulteret, et que nous passions des heures ensemble en tête à tête dans sa bibliothèque, indiscrétion du noble vieillard à la casquette galonnée promue à la garde du Grand Portail, toutes les boutiques de la rue Le Gratier au Pont Sully et du quai d'Anjou au quai de Béthune entrèrent en rumeur. On savait que je ne fréquentais point la messe, aussi quand on m'aperçut un dimanche, pénétrant sous les voûtes de Saint-Louis en Lille, sur les talons de la famille Norbert, on en conclut que j'étais un garçon perdu. Pour tout le monde, l'archiduchesse, avec ses grands airs, m'avait réduit à zéro. Elle m'avait pris sous le charme. Je n'en mangeais plus, je n'en dormais plus, je n'en parlais plus. Du fait, j'avais deux ou trois fois négligé de répondre aux questions insidieuses de Madame Langlois, événement grave. J'imagine que dans le même moment, l'arrière-boutique de Mademoiselle Baresca ne chômait pas et que l'on devait dresser les plans pour me sauver des maléfices de la famille du sorcier. Moi, un garçon si tranquille, si rangé, si ponctuel, et qui était toujours si poli avec sa femme de ménage. Madame Langlois s'était jurée de me prouver qu'elle existait encore, et voici comment elle y parvint. Hier, vers les 11 heures du matin, je rentrais dans ma chambre, venant de l'hôtel de Coulteret où Christine n'avait pas paru, ce qui m'avait mis de la plus méchante humeur du monde. Ma conversation prolongée avec le marquis, qui lui aussi semblait attendre Christine, n'ayant pu calmer mon impatience, je trouvais Madame Langlois, qui devait avoir fini son ménage depuis longtemps, mais qui inlassablement le recommençait. Je vis tout de suite que la brave femme avait quelque chose à me dire. La façon dont elle ferma la porte derrière moi, dont elle se planta les poings sur les hanches, enfin, toute l'émotion qui la gonflait, m'annonçait que j'allais apprendre du nouveau. Oh, je ne me trompais pas. « Eh bien, commença-t-elle ? Eh bien, un peu fort, votre princesse. Vous l'avez pas vue ce matin chez votre marquis, n'est-ce pas ? Pardon, Madame Langlois, pardon. Je pense que c'est de Mademoiselle Norbert qu'il s'agit. Sachez donc, une fois pour toutes, Madame Langlois, que Mademoiselle Norbert fait ce qu'elle veut. Et je vous dirais même que ce qu'elle fait ou ne fait pas ne m'intéresse en aucune façon. Au revoir, Madame Langlois, et rappelez-moi au bon souvenir de Mademoiselle Baresca. » La bonne femme devint cramoisie, puis passa au violet foncé, se mordit les lèvres, croisa fébrilement son fichu sur sa poitrine plate, enfin se dirigea vers la porte, mais avant de me quitter, elle se retourna. Ah, c'était pour vous dire que le beau jeune homme est revenu. Je ne pus m'empêcher de lui demander, quel beau jeune homme? Le jeune homme en manteau, avec des bottes et le chapeau à boucle. Oh, je sentis que tout chavirait autour de moi. Je balbutiais. Celui que... Oui, celui dont je vous ai parlé un jour chez Mademoiselle Baresca. Eh bien, il est revenu, le beau Gabriel est revenu. » Je la fixais d'un œil hagard. Étant tout à fait dans l'impossibilité de cacher mon émotion, la mère Langlois jouissait amplement de l'effet qu'elle produisait. « Vous me chassez pas maintenant. Ah, c'est qu'il lui en faut à la petite, vous savez, avec ses grands airs, avec ses grands airs. Bon, » j'avais envie d'étrangler cette horrible femme. Je me retenais pour ne point lui sauter à la gorge. Par un prodigieux effort sur moi-même, j'arrivais à prononcer d'une voix à peu près normale, cependant que j'essayais la sueur qui me coulait les tempes. Mais vous m'étonnez, madame Langlois, je savais que ce jeune homme était malade. Oh, il a l'air bien démoli, ça, c'est vrai, mais pendant la bonne saison, avec les soins de la jeune personne, il sera vite rétabli. Ah, vous l'avez vu rentrer chez les Norbert? Rentrer? Oh non, je ne l'ai point vu rentrer. Ce particulier-là, je vous ai déjà dit que je ne sais pas par où il passe, bien sûr. On dirait qu'il le cache chez eux. Il est peut-être poursuivi par la police. Je l'ai toujours dit, c'est sûrement un étranger pour être habillé comme ça. Si vous trouvez que tout ça est naturel, enfin, je vais dire une chose. Voilà 3 jours qu'ils m'ont remercié. Ah oui, madame Langlois, ils vous ont remercié. Mais alors, comment savez-vous? Comment je sais? Mais quand la mère Langlois veut savoir quelque chose, elle ferait la pige à la tour pointue, vous pouvez en être assuré. C'est comme je vous le dis et je le prouve. Quand ils m'ont eu fichu à la porte, je m'ai écrié dans mon intérieur. « Ah, celle-là, vous ne rapporterez pas au paradis. » Faut vous dire que j'avais remarqué que, du haut d'une lucarne de votre bâtisse, il aurait été facile de voir ce qui se passait chez eux. Je me l'avais dit plusieurs fois. Ce matin, j'ai vu partir ce carabin qui s'en allait à son école comme tous les matins. Puis ça a été le tour du vieux Norbert. Je m'attendais à voir sortir à son heure la Christine pour aller chez son marquis, où elle est maintenant tout le temps fourrée. C'est un secret pour personne, pas même pour vous, soit dit sans vous offenser. Mais les minutes, les quarts d'heure passent, pas de Christine. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire là-dedans toute seule? À moins que de mettre en train une autre femme de ménage, faudrait voir. Bref, je fais ni une ni deux. Je grimpe tout là-haut par une petite échelle, j'arrive dans le grenier. Mais voilà, à la lucarne, qu'est-ce que je vois? La Christine et le beau jeune homme qui se baladaient tous les deux. Ils faisaient tout doucement le tour du jardin. Elle l'avait à son bras et lui disait des Gabriel par-ci, des Gabriel par-là. Lui paraissait pas aussi farot que la première fois que je l'ai vu, quand il se tenait si droit qu'on aurait cru qu'il avait avalé un manche à balai. Il était un peu raplapla, et elle lui parlait doucement, comme quelqu'un qui encourage un malade. Ils sont allés s'asseoir derrière l'arbre. Là, il s'est laissé tomber dans le fauteuil de bois, et elle, elle l'a embrassé. Si c'est un parent, fis-je la voix blanche, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Oh, elle l'embrasse pas comme un parent, vous savez. Elle a une façon de le regarder. Allons, allons, madame Langlois. Ne soyez pas une mauvaise langue. Mademoiselle Norbert est une fille honnête, à la conduite de laquelle on n'a rien à reprocher. Oh, moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Tout de même, elle ne vous a pas raconté que, pendant que vous l'attendiez chez le marquis, elle soigne si bien le petit parent en question chez elle, parent que personne ne connaît, ni d'Ève ni d'Adam. Elle m'en parlera peut-être cet après-midi, et ne craignez rien, madame Langlois, je m'empresserai aussitôt de vous en faire part, car je vois que l'on ne peut rien vous cacher. Je crois que vous m'en voulez, monsieur Masson. Moi ? Et de quoi donc, ma brave femme ? Mais dites-moi, ils sont restés longtemps dans le jardin ? Non, pas même une demi-heure. Elle s'est levée la première et lui a dit « Entrons, papa va pas tarder à revenir. » Oh, il est docile. Elle doit sûre faire des hommes ce qu'elle veut, cette fille-là. Elle s'est penchée, elle lui a pris le bras, et ils sont rentrés tout doucement en faisant le tour du pavillon, sur la droite. Vous savez que la porte du laboratoire de M. Jacques donne sur le côté, dans la petite allée en face du mur. Ils sont rentrés par là. Bon, j'ai encore attendu. Elle est sortie du pavillon au bout d'un quart d'heure environ. Elle est allée s'enfermer, toute là-haut dans son atelier. Quel drôle d'existence ils ont, ces gens-là. Ben pourquoi ce jeune homme est malade? Il a pris pension chez celui qu'il soigne, et s'il est de la famille... Oh, je suis tranquille. Pour être de la famille, il en est. Là-dessus, pour que je n'aie aucun doute sur l'allusion, madame Langlois ajoute « Quand on pense que ça se dit fiancé ?» Eh bien, du plaisir, monsieur Masson. À propos, vous me donnerez quelques sous pour acheter du brillant belge. » Et elle est partie, triomphante. Ainsi, Gabriel n'est pas mort. Eh bien, pour Christine, j'aime mieux ça. Il faut donc en conclure que, suivant l'expression de la mère Langlois, ce jeune homme avait été simplement démoli, et ce sont les soins de Christine et de Jacques Cotentin qui l'ont sauvé. Dès la nuit même de l'affaire, le prosecteur avait dû rassurer Christine et le père Norbert lui-même sur les suites de l'accès de rage qui avait jeté comme fou l'horloger sur son hôte mystérieux. Ce n'est pas un cadavre que dans la nuit du lendemain on avait descendu sous mes yeux dans une couverture, mais un malade, un démoli auquel on avait dû faire les premiers pansements dans la chambre de Christine et que l'on avait transporté, dès qu'on l'avait pu, chez le prosecteur où il était encore. Et moi, je m'étais imaginé des choses. J'avais respiré une odeur. L'esprit va loin sur la mauvaise route. Ce n'est pas la première fois que je m'en aperçois depuis Henriette Havard et les autres, toutes les autres qui ne sont pas revenues. Je suis porté à voir des drames partout, alors que le plus souvent, il n'y a que de la comédie. Ce que je venais d'apprendre m'éclairait point les ténèbres qui entourent ce singulier personnage de Gabriel, ne me renseignait point sur sa présence dans l'armoire, sur la façon dont il pénètre chez les Norbert, ni sur l'attitude de toute la famille à son égard. Mais au moins, Christine, que j'avais vue si tranquille au lendemain du drame, ne m'apparaît plus comme un monstre inexplicable, comme une poupée sans cœur et sans pitié, comme une froide figure de beauté que j'adorais quand même, mais à laquelle je ne pouvais songer dans le moment que je n'étais point sous le joug de son regard sans une déchirante horreur. Non, tout cela est très bien, très bien. Seulement, Gabriel vit et elle l'aime. Ah, que mes lèvres brûlaient quand je l'ai revu cet après-midi, comme j'étais prêt de lui dire « Eh bien, Gabriel va mieux, mais je me suis tue au bord de l'abîme. Oui, j'ai senti nettement que ce mot-là, Gabriel, je n'avais pas le droit de le prononcer. C'est son secret, le secret de son cœur, comme on dit dans les romans. C'est son roman. Et moi, je suis hors de son roman. Je suis hors de son cœur, je suis seulement près d'elle. Si je veux rester près d'elle, tâchons d'oublier Gabriel. Elle est toute joie. Ainsi s'explique le rayonnement de ces derniers jours. Gabriel va mieux, Gabriel sera son bras dans le jardin. Tâchons d'oublier Gabriel. Et là, je ne pense qu'à lui. Heureusement que le drame d'ici me reprend avec une certaine brutalité. Nous nous trouvions, Christine et moi, dans la petite pièce que l'on a mise à notre disposition au fond de la bibliothèque, quand nous vîmes arriver la marquise, dans une agitation qui faisait pitié. Sing Sing courait derrière elle. Elle murmura comme si le souffle allait lui manquer. « Chassez cette petite bête immonde !» Je chassais Sing Sing, qui ne protesta pas. « Mais que vous a-t-il fait, madame ?» demandai-je. Vous devriez vous plaindre au marquis. Elle eut un pâle sourire. Mais Sing Sing ne me fait rien que de me suivre partout. Il n'y a rien là que je puisse apprendre au marquis. Elle était en proie à un tremblement singulier des plus pénibles à voir. Elle se tourna du côté de Christine. Je vous en supplie, fit-elle, protégez-moi. Vous qui avez de l'influence sur le marquis, dites-lui qu'il faut me laisser en paix, que ma pauvre tête s'égare et que ce docteur finira par me rendre tout à fait folle. « Quel docteur ?» demandai-je. À ce moment, la porte de notre cabinet s'ouvrit et la cariatide de bronze apparut dans l'embrasure. L'Hercule indien courbait la tête et les épaules comme s'il soutenait toute la maison. Monsieur le marquis fait prier madame la marquise de se rendre dans ses appartements où le docteur l'attend. Je regardais la pauvre femme. Elle claquait les dents. Rodin, pour sa porte de l'enfer, n'a pas inventé une figure où l'effroi de ce qui va arriver creusa des rides plus cruelles. Ravagée par l'épouvante, elle nous regarda tour à tour éperdument. En vérité, je ne savais quelle contenance tenir, ignorant en somme de ce dont il était question, mais toute ma pitié allait à cet oiseau blessé qui cherchait un refuge. Christine lui dit avec tristesse, « Allez, madame, vous savez bien que c'est pour votre santé. » Elle entr'ouvrit ses lèvres exsangues, mais même les mots ne sortirent point. Elle tremblait de plus en plus. Elle me regarda de ses yeux immenses et glacés. « Mon Dieu, fis-je, mon Dieu !» Je ne trouvais pas autre chose à dire. Sangor répéta encore sa phrase, les épaules de plus en plus courbées, comme si, sous le poids, il allait laisser choir toute la bâtisse. Et plus il était courbé, plus il paraissait formidable dans son épaisseur musclée. Enfin, comme cette scène semblait ne devoir pas avoir de fin, l'Hercule se déplaça, se courba encore, allongea vers la marquise, un bras redoutable. Celle-ci fut debout en une seconde statuette de l'horreur, devant cette statue de la force, et ils disparurent tous deux, tandis que l'on entendait rire Sing Sing derrière les portes refermées. ce que je venais de voir m'avait brisé. Certainement, si j'avais vu Christine si calme, je serais intervenu. Comme je la regardais et qu'elle ne disait rien. Mais enfin, m'écriai-je, vous savez ce qu'on va lui faire. Pourquoi cette épouvante? Quel est ce docteur dont la seule évocation semble épuiser sa vie? Oh, sans ce docteur-là, elle serait déjà morte, répondit Christine. Vous la verrez dans 8 jours, elle ne sera plus reconnaissable. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ombre, elle est sans force, sans couleur. Vous serez stupéfait de la voir agir à nouveau avec tous les gestes de la vie et toutes les grâces de la jeunesse. Mais qui donc est cet homme qui accomplit un pareil miracle? C'est un médecin hindou qui a une grande réputation en Angleterre et qui vient souvent à Paris, où il a aussi son cabinet, avenue d'Iéna. Oh oui, il est bien connu. Vous avez dû en entendre parler, le docteur Sahib Khan. Oui, je crois. N'a-t-on pas publié dernièrement son portrait dans le Royal Magazine? Parfaitement. Bien, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il lui ordonne? Oh, la chose la plus naturelle du monde. Des sérums, des jus de viande. Et pour que la marquise prenne un peu de viande, on a besoin de faire venir le docteur Sahib Khan, qu'elle a en si profonde horreur. Vous m'avouerez, Christine, que tout cela est de plus en plus incompréhensible. Pourquoi donc? Si vous la voyez dans cet état, c'est qu'elle se refuse à prendre quoi que ce soit avec une obstination qu'on ne retrouve que chez les grévistes de la faim. Or, Sahib Khan est le seul qui puisse la faire manger. Et comment cela? Il l'hypnotise. Vous connaissez son système, on en a assez parlé. Agir sur l'esprit pour guérir la matière. Ce n'est pas une nouveauté, mais l'Inde possède depuis des siècles une thérapeutique de l'esprit auprès de laquelle la science de nos charcots modernes est un balbutiement d'enfant nouveau-né. Évidemment, quand Sahib Khan a affaire à une cliente difficile comme la marquise, une cliente qui se refuse, il doit agir avec une brutalité psychique dont je n'ai même pas une idée et qui, à l'avance, anéantit la pauvre femme. Vous comprenez maintenant pourquoi son égarement ne me donnait que de la tristesse, pourquoi j'encourageais la malheureuse, pourquoi je lui disais que c'était pour son bonheur. Et tout cela parce qu'elle s'imagine qu'elle est mariée à... Christine me regarda fixement. « Mariée à qui, dites-vous, de votre pensée ?» incita-t-elle. « Eh bien, mariée à un phénomène qui est plus fort que la mort, est-ce bien cela ?» Elle hocha la tête d'une façon qui ne me satisfit qu'à moitié. J'insistai à mon tour. « Mais tout cela ne tient pas debout. Elle pourrait s'imaginer cela et ne pas se laisser mourir de faim. » « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Je repris au bout d'un instant. « Mais si je vous entends bien, ce Sahib Khan ne peut la guérir que pour quelques semaines. » Sans me regarder, Christine me répondit : hélas, il est étrange même de voir avec quelle régularité de pendule la marquise glisse de la vie à la mort pour remonter de la mort à la vie et redescendre ensuite. Au bout d'un certain temps, chez elle, l'idée réapparaît qui finira par la tuer si l'on n'en guérit pas. Le marquis n'a plus d'espoir qu'en Sahib Khan. Et en dehors de l'idée pour tout le reste, elle est lucide, très lucide et même remarquablement intelligente. Alors il est inimaginable que l'on ne puisse lui faire toucher du doigt l'absurdité de son idée. Je dis bien toucher du doigt, car enfin, pour tous ces coulterets, depuis Louis-Jean-Marie Chrysostome jusqu'à Georges-Marie Vincent, on a bien dressé des actes de naissance et de décès, des actes authentiques. Pas pour tous. Et c'est bien là ce qui fait le malheur du marquis. Il y a deux Coulterets qui sont morts assez mystérieusement à l'étranger. Vous savez qu'ils étaient grands coureurs d'aventure. Certains sont nés à l'étranger et il est exact que certains papiers ne sont pas d'une authenticité absolue, mais vous savez qu'aux deux siècles passés, c'était la chose courante même en France, et que les naissances, les mariages, les morts étaient prouvés, surtout dans les grandes familles, moins par des documents que l'on négligeait d'établir ou que les révolutions avaient pu faire disparaître que par le témoignage des contemporains. La marquise est au courant de cette particularité. On n'a pas pu lui prouver la mort des Coulterets ni leur naissance d'une façon formelle à ses yeux, car j'ai toutes ses confidences. Et le marquis, d'autre part, a mis à ma disposition tous les documents dont il disposait. Voilà où nous en sommes, c'est inimaginable. Mais enfin, si elle était saine d'esprit, comment la première idée d'une chose pareille lui est-elle venue? La première idée, mon Dieu, mon cher monsieur Bénédicte Masson, je ne pourrais pas vous dire, je n'en sais rien, moi. Il y avait de l'hésitation dans sa réponse. Sans doute avais-je fait, sans le savoir, allusion à cette autre chose dont elle ne m'avait encore rien dit et qui était au nombre de ces grandes misères dont le marquis ne faisait point part à tout le monde et dont, au surplus, il paraissait fort bien se consoler. Pendant toute la fin de cette conversation, Christine avait eu la tête penchée sur un ouvrage de ciselure assez délicat et semblait très absorbée par le trait que son stylet creusait avec une aisance singulière dans la plaque toute préparée. Je me penchais au-dessus d'elle pour voir. « C'est pour vous que je travaille, » fit-elle de sa voix harmonieuse et calme. « Vous incrusterez cette plaque dans votre reliure des dialogues socratiques. Alors je reconnus certains profils apolliniens, l'œil fendu en amande, le dessin de la bouche, l'ovale parfait du type qui avait peut-être été celui d'Alcibiade ou de quelque autre disciple se promenant sous les ombrages du dieu Académos, mais qui ressemblait, comme deux gouttes d'eau, à Gabriel. Chapitre 9. Dorga. 8 juin. Christine avait encore raison. J'ai revu la marquise, elle est méconnaissable. 3 jours ont suffi pour cette transformation. Maintenant, c'est bien une personne vivante. En tout cas, elle semble reprendre goût à la vie. Elle sort, ou on la sort en voiture découverte, une voiture attelée. Elle adore, paraît-il, les chevaux. Elle revient du bois, les joues fleuries. Son regard, cependant, est toujours triste, inquiet, mais le sang circule à nouveau dans ses veines. L'esprit est toujours malade, mais le corps va mieux. Elle sort avec sa dame de compagnie anglaise. Sangor conduit, il a à côté de lui Sing Sing. Elle ne reçoit jamais de visite. Christine me dit que c'est elle qui ne veut recevoir personne. Elle refuse d'aller dans le monde. Et le monde n'insiste pas. Le bruit a commencé à se répandre que la pauvre jeune femme n'avait pas une cervelle très très solide. Ses silences, ses bizarreries, son air de plus en plus lointain ont détaché d'elle peu à peu toute la société du marquis. Dès les premiers mois de son retour en France, le marquis a donné quelques fêtes dans son hôtel, et puis tout ce mouvement qui ressuscitait le quai de Béthune a cessé assez brusquement. On plaint Georges-Marie Vincent. Néanmoins, ses amis se félicitent qu'il ait pris le dessus sur ses malheurs domestiques. Je tiens naturellement tous ces détails de Christine. Elle est très renseignée. « Le sang des Coulterets est plus fort que tout, me dit-elle. Ils en ont vu bien d'autres. Un petit bourgeois serait écrasé par cette infortune. Lui, il prend des maîtresses. Il aurait voulu me mettre dans sa collection. Ça n'a pas réussi. Il est déjà consolé, ou du moins je l'espère. Je ne suis, je ne puis être que son ami, l'ami de la marquise. » Ils ont besoin de moi entre deux. Voilà, vous avez le secret de ma situation ici. Sur ces entrefaites, le marquis est entré, un flacon et des gobelets d'argent à la main. Ses yeux brillaient. Il faut que je vous fasse coûter, dit-il, ce que Sahib Khan vient de trouver pour la marquise. Elle y a goûté. Elle a déclaré cela excellent. Oh, je vous crois, on dirait du cocktail. Et savez-vous ce que c'est? Un mélange de sang de cheval, d'hémoglobine, de je ne sais quoi. Goûtez-moi cela, je vous dis. Aucune fadeur, au contraire, une saveur capiteuse et chaud à l'estomac, comme un vieil armagnac. Ça réveillerait à mort et ça vous donne l'appétit. Nous bûmes. C'était en effet tout ce que disait le marquis. Avec cela, ma petite Christine, nous la remettrons de vous en 15 jours. Il se tourna vers moi. Vous étiez là quand on est venu la chercher pour le docteur. Christine vous a raconté. Vous êtes un ami. La pauvre enfant, si nous pouvions la sauver. « Bah, que le corps se porte bien et la tête ira mieux. » Il s'est frappé le front, il s'en est allé avec son flacon et ses gobelets, enchantés, rayonnants. « C'est chaque fois la même chose, me dit Christine. Chaque fois, il s'imagine que sa femme est sauvée. En attendant... Il va aller ce soir rejoindre sa Dorga. Sa Dorga? Oui, la danseuse hindoue. Bon, décidément, il a beau en être revenu. Il ne sort pas de l'Inde, cet homme-là. Ah, il l'a ramené de là-bas en même temps que sa femme. Mais vous m'aviez dit qu'il adorait la marquise. Mais êtes-vous naïf? Un Coulteret peut adorer sa femme et avoir 10 maîtresses. Celle-ci lui fait honneur, elle fait courir tout Paris. Juin. J'ai vu Dorga. Oui, moi qui ne sors pas le soir 10 fois par an, j'ai eu la curiosité d'assister aux danses de la belle hindoue. Je suis allé au Music Hall. Il y avait, comme on dit dans le jargon des communiqués de théâtre, une salle resplendissante. Je m'attendais à une petite danseuse demi-nue, avec quelques bijoux sur la peau, des disques au sein, une ceinture de métal et de lourds bracelets aux chevilles. Je m'attendais encore à quelque déhanchement rythmé dans un décor de pagode, enfin, le genre si ennuyeux qui a débarqué en Europe avec la dernière exposition. Bien, j'ai vu apparaître une superbe créature au teint à peine ambré dans une toilette de gala à la dernière mode. Matin, le marquis aime les contrastes. La marquise d'Orgas, c'est le jour et la nuit, un jour blême à son déclin, à son dernier rayon, sous un ciel du nord, au crépuscule anémique, et voici la nuit chaude, brûlante, fabuleuse, où flambent tous les feux de l'Orient, mais plus que les bijoux qui l'étoilent, plus que la ferronnière qui étincelle sur son front dur, éclatent les yeux de cruelle volupté de Dorgas. L'Orient dans une robe de la rue de la Paix, les jambes de la déesse Kali dans des bas de soie et dansant un chimie que l'on écoute dans un silence oppressé. Après la dernière danse, quand la salle put respirer, une foudroyante acclamation a attesté la satisfaction des spectateurs qui en voulait encore. Mais la belle danseuse avait disparu, assez méprisante, et ne revint plus. Les lumières jaillirent sur les visages pâles ou cramoisis au gré des tempéraments, et j'aperçus le marquis écarlate qui sortait d'une loge avec Saïd Khan. Il daigna me reconnaître. « Vous avez vu ?» me jeta-t-il. « Vous avez vu, quelle merveille !» Et à ma grande stupéfaction, il me prit sous le bras. « Allons la féliciter !» Je me laissai entraîner. Nous fûmes bientôt dans sa loge, assiégés, mais qui ne s'ouvrit que pour nous. Cette fois, elle était demi-nue au milieu des fleurs. Le marquis me présenta. « Monsieur Bénédicte Masson, un grand poète !» Je ne protestais pas. J'eusse été incapable de dire un mot. Je la regardais à la dérobée, honteusement et l'air mauvais, un air que je prends souvent avec les femmes pour masquer ma timidité. Quant à elle, elle m'avait jeté un coup d'œil dans la glace et ne s'était même pas retournée. Quelques vagues paroles de politesse. Elle devait me trouver très mal habillé. Elle réclama du champagne, passa derrière un paravent et je m'enfuis la tête chaude, les oreilles sonnantes. Je me sentais une haine farouche pour le marquis et pour tous les hommes riches qui n'ont qu'à se baisser et à se ruiner pour ramasser de pareilles femmes. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? L'image de Christine en moi, charmante et subtile, l'effigie. Ah, Seigneur Dieu, j'ai envie de me tatouer la peau comme un colonial, comme un joyeux. Un cœur avec une flèche et autour, j'aime Christine. Quand je me regarderai dans la glace de mon armoire, je croirais peut-être que c'est arrivé.